Alors, comme à chaque émission, pratiquement, on reçoit en entrevue un professionnel du monde de l'orientation. Et là, ben, enfin, on avait le goût de pas seulement inviter Mme Landry pour sa chronique bimensuelle qu'elle fera à Bonheur et vice-versa, mais on avait le goût d'apprendre à connaître cette femme aussi derrière le rôle de la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillers d'orientation du Québec, Mme José Landry. Bonjour, Mme Landry.
Bonjour, Maxime.
Alors, vous étiez quand même fébrile de venir à cette émission aujourd'hui.
Moi, j'avais très, très hâte. Je trouve que c'est un très beau projet. Je suis contente de collaborer avec vous puis d'avoir cette opportunité-là de parler d'orientation avec vous.
Mmh. On est bien content que vous ayez choisi d'accepter cette invitation, mais en fait, c'est vous qui nous avez un peu lancé l'idée lors du dernier colloque des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.
Je pense que j'étais fébrile et enthousiaste au colloque, puis je savais pas que ça tomberait comme ça dans vos oreilles.
Ouais, ben oui. Deux jours après, c'était décidé.
L'émission comme telle a été une idée lancée en l'air qui finalement s'est concrétisée.
Oui, on écoute pas mal nos feelings, je pense.
Oui.
Alors, ben, premièrement, on aimerait peut-être connaître un peu le choix que vous avez fait de vous en aller en orientation. D'où c'est venu dans votre peut-être jeunesse ou je ne connais pas votre parcours. Alors, où ça commence tout ça?
Eh bien, je suis une diplômée de l'Université Laval et... Au départ, j'avais consulté un conseiller d'orientation quand j'étais au cégep parce que je ne savais pas moi-même quoi faire. Et on m'avait dirigée vers le notariat, donc des études en droit. Je me suis inscrite et j'ai été refusée, mais acceptée sur liste d'attente. Et mon deuxième choix était l'orientation. Alors, je suis allée en orientation en me disant, je vais faire une session, puis je vais me réessayer en droit. Et je suis tombée en amour avec l'orientation.
Ça a cet effet-là, hein?
Oui, ça a cet effet-là, heureusement. Et j'ai découvert tout un monde et vraiment, j'ai apprécié ce que j'apprenais et j'ai complètement oublié le droit.
Il y a combien de personnes à la maison qui se sentent interpellées, vous croyez, les filles?
Bien, moi, je ne suis pas à la maison, je suis en studio, mais je me sens très interpellée.
Oui, bien, toi, c'est même chose pour moi. Je n'ai pas été dans un premier programme, je suis allée dans un autre. Puis en orientation, bien, tu sais, Annie, Josiane, on a aussi un emploi qui est à l'université, on est en contact avec les étudiants, puis on entend ça tellement souvent chez les étudiants en orientation.
Oui. Tout à fait. C'est un peu une orientation que j'appellerais pas par hasard ni par erreur, mais c'est un deuxième choix qui en est devenu finalement un premier. Mais je suis tombée dans un choix qui me plaisait sans savoir que ça me plaisait. Bon, ceci étant dit, le CO de l'époque avait fait quand même une bonne job parce que... Mais je ne me serais pas vue dans le droit. Sûrement qu'il y avait des aspects de ma personnalité qui se seraient... qui auraient été contents, là. Mais je suis beaucoup plus à ma place en orientation. Et quand j'étais aux études, je suis arrivée au baccalauréat au moment de faire mes stages. Et j'ai dit, moi, je vais aller dans une entreprise. L'organisationnel, à cette époque-là, dans mon jeune temps, n'existait pas, en tout cas pas dans ces mots-là. Et moi, il faut savoir que mon père travaillait en usine. Et à tous les soupers à la famille, dans la famille, à tous les soupers autour de la table, il nous racontait ses histoires d'entreprise. Et moi, je m'étais dit, un jour, je veux aller travailler avec lui. Donc, j'ai dit, je vais aller faire un stage en entreprise. Et finalement, il n'y avait pas de milieu de stage. On m'a dit, fais une recherche. Et si tu trouves, on va l'accepter si ça rencontre les objectifs. Et j'ai trouvé un stage au Musée de la civilisation aux ressources humaines. Et on m'a dit, dans les dernières années, j'ai appris que c'est maintenant un milieu de stage pour les étudiants
c'est
d'orientation.
C'est vous la pionnière des...
Il semblerait, oui.
Les COO, hein? On utilise un peu ça comme...
Maintenant, ce sont... Oui, maintenant, il y a un vocable là, qui s'appelle les conseillers d'orientation organisationnelle, mais à l'époque, c'est pas quelque chose qui existait.
Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vous disent merci, Mme Landry, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ce secteur. Et malheureusement, on en perd beaucoup qui vont peut-être aller étudier dans un autre domaine en pensant que c'est impossible en orientation, et pourtant non.
Oui. Bien, écoutez, c'est très possible en orientation parce que la formation qu'on a et l'expertise qu'on a nous permet de bien conseiller les gens dans une entreprise, les gestionnaires, de comprendre le fonctionnement dans une équipe de travail et aussi la motivation au travail. Donc, il y a des gens qui vont aller vers la psychologie industrielle ou encore vers les ressources humaines, alors qu'en orientation, notre valeur ajoutée, je dirais, c'est aussi la gestion de la carrière et les compétences et l'expertise en évaluation.
Puis, c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais en allant en orientation, une partie de la formation porte aussi sur les individus, chose qu'il n'y a pas en relation industrielle. sociale ou en administration, un point aussi centré sur la psychologie puis le fonctionnement de la personne.
Mm-hmm. Tout à fait. Ça rejoint, Annie, le point dont je parlais, qui est l'évaluation, en fait, hein, qui est plus orientée vers la personne. Ceci étant dit, on a aussi les compétences pour travailler en organisation. Alors moi, c'est ça, je me suis dirigée vers l'organisationnel assez tôt. J'ai fait un crochet par la réadaptation. J'avais fait un stage au Centre François Charron à l'époque, IRDPQ maintenant. Et ça m'a dit, j'aime bien ça, mais je vais rester en entreprise. Et j'ai travaillé en employabilité aussi. Et puis, je suis maintenant en pratique privée depuis quelques années. Présidente de l'Ordre des conseillers d'orientation, ça fait maintenant 2 ans. Mais vous savez, le rôle de présidente à l'Ordre des conseillers d'orientation, c'est 3 jours semaine.
Mm-hmm. Alors, vous continuez à pratiquer aussi?
J'essaie.
Vous essayez, oui.
Le plus possible, c'est un peu difficile de concilier tout ça. Mm-hmm. Mais ma passion est encore là. Et ayant encore le goût de m'impliquer avec des clients, j'essaie de concilier tout ça. Et pour être présidente d'un ordre professionnel, je ne sais pas si vous le savez, mais on doit être membre de notre ordre professionnel. On doit faire partie de la profession. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je suis conseillère d'orientation et présidente de l'ordre, parce que ça va avec ma passion aussi de m'impliquer et de faire connaître l'orientation, entre autres, l'utilité de l'orientation dans la société.
Vous vous impliquez beaucoup, de mon point de vue, justement, pour faire valoriser la profession. Puis c'est quelque chose, je crois, qui fait de vous une présidente qui se distingue, même si je ne suis pas encore un grand connaisseur et que je suis peut-être un nouveau dans le domaine. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que vous prenez la parole et vous allez devant, justement, pour défendre la profession et des choses qui en sont reliées. Puis je trouve que c'est tout à votre honneur.
Je vais juste faire une petite précision. Mm-hmm. Je sais de ne pas défendre la profession, mais de la faire valoir.
De la faire valoir, oui.
Auprès du public pour que les gens sachent qu'ils ont accès à des services d'orientation tout au long de la vie. Vous en avez parlé dans la dernière saison, là, mais pas seulement les étudiants du secondaire. Oui, c'est vrai. Puis je vous dirais même, les étudiants du secondaire auraient avantage à avoir encore plus accès à des services d'orientation parce qu'il en manque. Et moi, comme présidente, mais l'ordre professionnel aussi tente le plus possible de mettre en place des outils et des programmes pour favoriser l'accès aux services d'orientation pour tous les publics, que ce soit des jeunes secondaires jusqu'à la retraite
parce
et les organisations.
Le rôle numéro un, en fait, de l'Ordre, et on en parlera un petit peu plus tard, justement, ça va être le sujet de votre premier 5 minutes. C'est d'abord de protéger le public et de travailler pour lui et non le contraire.
Oui, mais on va démêler ça tout à l'heure.
Exactement.
Effectivement,
exactement.
Ça va être une bonne opportunité de le faire.
Je vous remercie pour toutes ces confidences. C'est vraiment très apprécié de pouvoir apprendre à plus vous connaître. Puis ça va être le fun aussi pour nos auditeurs parce qu'ils vont pouvoir vous suivre et avoir un peu une image plus complète de vous au cours de la saison.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec une autre confidence. Votre chanson Bonheur. Je vous ai demandé ça et vous m'en avez soumis une de façon enthousiaste.
Bien, de façon enthousiaste parce que c'est un jeune artiste émergent, vraiment émergent. Maxime me disait, il faut juste qu'il ne soit pas dans le top 100. Je vous garantis qu'il n'est pas dans le top 100.
On est dans une radio communautaire. Hein, puis
puis j'apprécie vraiment, oui. Mettre en valeur là, des artistes moins connus. Oui. Et la chanson s'appelle « Comme au cinéma » et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut vivre sa vie, être lui-même et arrêter de faire sa vie comme au cinéma.
Mm-hmm. Alors, on l'écoute à l'instant, à Bonheur et vice-versa. Merci beaucoup. Et on vous revient après la pause avec les chroniques de mes 2 co-animatrices. J'ai fait semblant.
On fait comme on peut. Voici José Landry.
Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie.
Alors, à tous les mois, on va recevoir Mme José Landry 2 fois par mois pour avoir une petite tribune à la fois pour Mme José Landry, pour l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et pour parler aussi de ce qui se passe dans la société, si jamais il y a quelque chose qui sort dans les médias, whatever, qu'on a le goût de parler. Alors, Mme José Landry, c'est votre premier 5 minutes de la présidence.
Yes.
À vous la parole.
Alors, comme tu viens de le dire, Maxime, effectivement, le but de la chronique, ça va être de parler de l'ordre professionnel, mais surtout de l'orientation et des services en orientation pour le public.
Mm-hmm.
Bon, tout à l'heure, on disait, bon, quelle est la mission d'un ordre professionnel?
Bien, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui commencer à parler aux auditeurs. c'est quoi la mission d'un ordre et c'est quoi la mission de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation?
Mais vous savez, il y a 46 ordres professionnels au Québec, 54 professions qui sont régies par des ordres professionnels. Nous avons tous la même mission, protéger le public. Et ça, on entend ça beaucoup, protéger le public, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Qui est le public? Donc, le public, ce sont toutes les personnes qui font appel au service des professionnels qui sont membres d'un ordre professionnel. Et quand on parle de protéger le public, ça veut dire qu'on veut protéger ces personnes-là d'un risque de préjudice.
Ces personnes-là, c'est les auditeurs à la maison. C'est nous ici si on a besoin des services. C'est tout le monde.
Tout le monde. Mm-hmm. Si je fais appel à un pharmacien, à un médecin, à un dentiste, ce sont toutes des personnes ou des professionnels membres d'ordre professionnel. Alors, on a tous la même mission, de protéger les gens qui utilisent les services de ces professionnels-là. Comment on fait ça? Alors, parce que, bon, tout à l'heure, tu parlais de défendre la profession. Bon, mm-hmm. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, entre autres, bon, on inspecte nos membres, hein? On inspecte la pratique de nos mm-hmm. membres, ce qui n'est pas nécessairement la police, mais ce qu'on veut faire, c'est aider les membres, donc les professionnels, à pratiquer dans les règles de l'art. Comme, par exemple, nous, on a un nouveau code de déontologie qui s'en vient mm-hmm. le 13 septembre.
Bien, c'est comme aujourd'hui. Demain.
Demain.
Demain, le nouveau code de déontologie.
Tout à fait, c'est vrai. Alors, bon, ça, on a aussi, on veut favoriser le développement des compétences et la mise à jour des compétences de nos professionnels. Donc, l'Ordre va offrir aussi de la formation continue à ses membres. Et l'autre chose qu'on va faire aussi, là, bon, je vais vous donner un exemple, par exemple, un travailleur qui est en épuisement professionnel, qui est démotivé dans son travail, qui va aller consulter un conseiller d'orientation. Si cette personne-là, pour différentes raisons, n'est pas satisfait des services qu'il a reçus, pour différentes raisons. Bon, vous savez, dans les médias, on a entendu parler beaucoup d'inconduite sexuelle dernièrement. Ça pourrait arriver avec un conseiller ou une conseillère d'orientation. On a entendu parler de ça avec d'autres professionnels. Alors, le public, donc la personne qui utilise les services, a un recours auprès de l'ordre professionnel et peut porter plainte ou demander une enquête. C'est pour ça qu'on dit protéger le public.
Ben oui. Puis est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, Mme Landry?
Chez les conseillers d'orientation, non.
OK. Vous n'avez pas beaucoup de demandes de plainte ou des choses comme ça?
Non. Mais ce qu'on veut, par contre, c'est que les gens sachent que c'est possible de le faire, pas seulement avec un conseil d'orientation, mais toutes mm-hmm. les professions mm-hmm. qui sont régies par un ordre professionnel. Quand on utilise les services de ces professionnels-là, on a un recours auprès de l'ordre professionnel. Et c'est ce qu'on parle, c'est de ça qu'on parle quand on dit protéger le public, c'est d'offrir au public la possibilité d'obtenir réparation ou de se faire entendre.
Donc, alors, c'est la mission numéro un de l'Ordre.
Oui. Et, bon, par exemple, je vous disais tout à l'heure, une personne qui est en épuisement professionnel, qui va consulter un professionnel et qui n'est pas, par exemple, membre d'un ordre professionnel et qui va aller chercher des services d'orientation. Attention, maintenant, la loi réserve des activités aux conseillers d'orientation. Alors, à partir du moment où on a un diagnostic de trouble mental, donc l'épuisement professionnel, ça peut en être un, le TDAH, anxiété généralisée, ça doit être un conseiller d'orientation qui fait l'évaluation en orientation. Au-delà de ça, on peut ne pas avoir de diagnostic et être une personne vulnérable, donc avoir une fragilité, un épuisement. Et les conseillers d'orientation sont ceux qui possèdent la formation pour bien évaluer la personne et la diriger au bon endroit si jamais... Bon, par exemple, moi, j'ai pas l'accréditation pour la psychothérapie. Mais je vais diriger une personne, je vais la référer en psychothérapie, c'est de ça dont elle a besoin. Alors, l'autre travail de l'ordre professionnel, c'est aussi de surveiller l'exercice illégal mm-hmm. des personnes. Et tous les ordres professionnels ont aussi cette mission-là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'exercice illégal?
Une personne qui pratique des activités qui sont réservées à une profession.
Mm-hmm. Exemple, la psychothérapie.
Comme moi, je serai en exercice illégal de pratiquer la psychothérapie. Comme je suis conseillère d'orientation... mais je n'ai pas l'accréditation.
Tandis que Josiane, qui est en voie d'avoir l'accréditation maintenant, qui est supervisée, est dans les droits de faire de la psychothérapie.
C'est ça. Légal.
Vous êtes légal. D'accord. Oui. Et je vous donnerai un autre exemple. Un médecin qui pratiquerait la médecine sans avoir son titre de médecin, sans être membre du Collège des médecins. Bon, c'est la même chose en orientation. Donc, on doit surveiller la pratique illégale. Et ceci étant dit, une personne du public, encore une fois, qui voit ou qui est témoin d'une pratique illégale peut interpeller son ordre professionnel ou l'ordre professionnel qui réglemente cette profession-là et signaler, faire un signalement. Mm-hmm. Alors, ça fait partie de notre mission, c'est ça, protéger le public.
Et l'une de vos missions aussi, c'est d'informer vos membres, c'est-à-dire les conseillers et conseillères d'orientation, de la nature, justement, des pratiques qu'ils font. Exemple, je me souviens qu'au dernier, colloque, vous avez fait l'état des travaux à propos de la psychothérapie et des balises de cette pratique-là aussi. Donc, vous informez vos membres sur quoi faire et ne quoi pas faire, ou en tout cas, vous leur donnez des pistes.
Oui. Et je vous dirais aussi plus loin, c'est que, bon, on se fait souvent dire « vous ne travaillez pas pour les membres ». Peut-être, effectivement, parce que dans notre mission, c'est de protéger le public. Mais, par exemple, avec toutes les actions politiques qu'on peut faire, les mémoires qu'on rédige, les représentations à des commissions parlementaires, des dépôts de mémoire qu'on fait, des prises de parole publiques, on travaille pour l'accès aux services d'orientation pour le public. Alors, on travaille aussi... Bon, tout à l'heure, tu parlais de défendre la profession, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire rayonner la profession et son utilité pour que les gens du public aient accès.
Je parlais un petit peu plus de moi à travers tout ça, je crois. Ça m'appartenait un petit peu, le défendre la profession, je crois.
Mais je comprends ton expression parce qu'en fait, c'est un effet aussi, hein?
Oui,
être un effet là, qui s'apparente là, à ce qu'on va faire comme action, même si notre mission n'est pas celle-là. En bout de ligne, c'est sûr que comme membre d'un ordre professionnel, on est content quand notre profession rayonne dans la société, puis qu'on fait appel à nos services, puis qu'on peut aider les gens qui en ont besoin.
L'OCCEQ, c'est combien de conseillers et conseillères d'orientation?
Alors, on a dépassé, on est un peu plus de 2500 membres au Québec, partout au Québec. Dans différents secteurs de pratique, hein, je le disais tout à l'heure, l'orientation, c'est vraiment tout au long de la vie. Alors, des étudiants de secondaire, de tous les niveaux d'études, hein, tout à l'heure, là, on parlait des services, là, à l'université, il y a des services d'orientation. On parle aussi des organisations, on parle de l'employabilité SS, tout à l'heure, on parlait des personnes, des étudiants immigrants. Alors, les personnes immigrantes, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de dossiers sociaux qui nous préoccupent à l'ordre. Et tous les secteurs de pratique, tout au long de la vie, bon, on parlait tout à l'heure de personnes plus âgées, là, par exemple, qui se préparent à la retraite. Alors, on a notre utilité et nos 2500 membres travaillent dans tous ces secteurs de pratique-là avec différentes problématiques.
Merci beaucoup pour cet éclairage. On a entendu parler de l'OCCEQ, mais je crois qu'on peut transférer une bonne partie de ce que vous venez de nous dire sur les autres ordres professionnels aussi, sur les missions ou sur, en tout cas, c'est quelque chose quand même qui s'apparente quand vous parlez de protection du public, du moins.
En fait, ce qu'on parle à ce moment-là, ce dont on parle, c'est le système professionnel. Oui. Alors, je voulais aussi vous situer l'ordre des conseillers d'orientation comme notre mission comme ordre, mais c'est la même mission pour tous les ordres.
Oui,
j'ai une question pour vous. Si un conseiller d'orientation a des questions par rapport aux limites, justement, de sa pratique, est-ce qu'on peut téléphoner comme professionnel à l'ordre puis avoir des réponses de ce côté-là?
J'aime beaucoup la question. Parce que moi, là, je vais vous dire, il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver sur le site Internet de l'Ordre, dans le code de déontologie. Et il y a toute la délibération éthique. Hein, on parle beaucoup de délibération éthique. Soi-même, là, devant une problématique... Qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire? On peut consulter nos collègues, on peut... Puis je vous dirais, en bout de ligne, appeler l'ordre. Mais vous pouvez, par vous-même, avec la formation et l'expérience que vous avez entre vous, peut-être délibérer et identifier une solution. Mais évidemment, l'ordre est toujours là pour vous répondre. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, on a beaucoup de ressources sur le site Internet.
Merci beaucoup, Mme Landry, pour toutes ces informations-là. Le site Internet, en fait, des conseillers et conseillères d'orientation ou de l'ordre, plutôt?
Orientation.qc.ca. Et pour les gens du public qui veulent consulter un conseiller d'orientation, nous avons le répertoire des conseillers d'orientation partout au Québec.
Super. Bon, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Et maintenant, c'est le moment de ma petite chronique.